Qu'est-ce que tu fais?
Je voudrais sortir avec des copains.
La sortie au musée est annulée.
Bien entendu, il convient que les gens s'amusent. Mais bien entendu, que l'on joue ici même, ce qui peut amuser tout le monde, nous en serons tous ravis.
Gagnez la sortie de secours sans précipitation. Et laissez-vous glisser sur le toboggan.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Sorties de secours, le podcast où on vous raconte nos sorties entre amis, mais en fait non, on vous parle d'autre chose. Si vous êtes des auditeurs fidèles de ce podcast, vous devez avoir compris depuis un moment la passion qui anime Pauline et qui sera centrale dans cet épisode. Un étrange hobby qu'elle a subrepticement imposé au fil des épisodes, les pots. Et c'est ainsi que Léopold...
C'était bien tenté.
Ça, Jeff sort de ce corps.
Mipoël, Japo et moi-même, Ouer, nous sommes rendus à l'atelier de Pauline, le bien nommé les pots de popo.
Non, c'est faux.
Les pots de popo.
C'est beau, tu veux dire.
Venez seulement, on va aller la voir à l'atelier céramique.
Très bien, mettez les tours en marche, on va s'amuser avec un peu de terre glaise.
Qu'est-ce que tu fais?
C'est propre, c'est de la terre.
J'arrivais pas à dormir.
Il n'y a qu'une seule et unique règle dans cette classe. Je ne tolérerai aucun remake de la scène de poterie entre Demi Moore et Patrick Swayze dans Ghost.
Tu veux un coup de main?
Oui.
Je suis potier.
Mais t'es malin. Oui.
Ensuite, elle les mettait au four pour les cuire.
Laisse l'argile glisser doucement entre tes...
J'ai dû adopter dans ce cours une politique de tolérance zéro ghost.
Non, vous inquiétez pas.
Si vous prenez ne serait-ce que 3 notes de la chanson des Righteous Brothers, je jure devant Dieu que je vous taperai dessus avec tout ce que j'aurai sous la main. Sur ce, que la fête commence.
beaucoup de références, oui, c'est Community.
Ah bah oui.
Pas que.
Oui, pas que.
Donc certains aiment les jeux de rôle, d'autres aiment les pots, et encore d'autres membres de ce podcast dont nous tairons le nom aiment le pote, comme disent nos amis québécois. Donc, grâce à Pauline, le temps d'une séance où elle s'est faite notre professeur, que dis-je, notre maîtresse, nous avons pu découvrir le façonnage de la glaise. Elle nous a enseigné à pétrir l'argile, à claquer le petit cul dodu de la boule de glaise, à la jeter avec passion sur le tour de potier, à l'asperger délicatement avant d'ériger la fameuse tour phallique, dernière étape avant la création de nos œuvres. Nous avons ainsi façonné avec amour nos propres bols qui n'ont pas à rougir de la comparaison de ceux que font les enfants en école primaire à l'aide de papier mâché. Et j'aimerais savoir, avant que nous commencions, ce que vous avez pensé, vous, de ce cours dispensé par Pauline, si on met de côté, évidemment, le côté outrageusement sexuel de cette activité. Hein.
On aurait pu en parler longtemps.
D'ailleurs, dans mon intro. Hein.
N'est-ce pas? Mais, encore une fois, les grands esprits, n'est-ce pas?
Bah, c'était génial.
Mais c'était trop bien.
Oui, c'était trop bien.
Évidemment. Je suis là, donc en même temps, vous n'allez pas dire le contraire.
On aurait pu dire, bon, c'était sympa, mais je m'attendais à autre chose, tu vois. Mais non, vraiment, c'était trop bien.
Bah, en plus, Pauline était étonnamment une bonne professeure. Nous avons tous été...
étonnamment.
Écoute, non, mais il faut pas être trop sympa, agréable, tu vois, parce que...
Non, mais moi, j'étais hyper surpris. Elle nous a donné plein de bons conseils. Elle était toujours derrière nous en mode, comme dans Ghost, hein, tu sais, elle mettait ses mains autour de toi, elle faisait, vas-y, pétris comme ça, Pierre, et tout. Enfin, moi, après, je sais pas pour vous. Mais...
D'autant plus que la séance de poterie s'est accompagnée d'un bon apéro entre copains. Et de,
oui,
de
toute mais façon, ça, comme à chaque fois.
En fait, bah oui, mais ça ajoute du plaisir, tu vois, au plaisir.
Toujours. Ouais.
Et puis à la fin, on est pas reparti directement avec nos pots personnalisés. Ah, parce que oui, Pauline a mis nos petits noms en dessous, tu sais, comme à l'école primaire, quand, quand t'es fier de ce que t'as fait. Mm. Donc on a des petits pots avec nos petits noms en dessous. Elle a mis les mailles elle-même, ils sont trop beaux.
Ouais. On pourra mettre la photo d'ailleurs.
De
non, il n'y a pas possibilité.
Si, complètement, voilà. Là, dans la
description. On avait mis la recette du tarama de Zoé.
Du tarama à l'huile.
On pourra mettre la photo des pots.
Pauline vous fera un petit tuto Wikiao, comment faire votre propre pot. Bon, assez parlé de notre activité poterie et on se dirige lentement vers les issues de secours.
Et les issues de secours se trouvent ici, dans les coins.
Pour commencer, quoi de mieux que notre professeur, notre guide, notre phare au bout de la nuit d'argile, Pauline, qui, sans surprise, va nous parler d'un pot, mais pas n'importe quel pot, un pot historique, le
pot
de Soison.
Et ne vous en faites pas pour le vase.
Quel vase?
Incassable. Cassier.
Qui recassa le vase de Soissons?
Et oui, Pierre.
Et oui,
voilà.
Pauline.
Bon, j'en fais un peu mon petit gimmick. Hein. Donc effectivement, je vais faire appel à vos souvenirs d'écoliers aujourd'hui, puisque cette sortie, moi, m'a remémoré un épisode de notre grande histoire de France. Et si je vous dis dynastie des Mérovingiens, voilà, le boy qui a unifié le royaume des Francs, là, comme ça ou...
Dagobert.
pas tout à fait. Est-ce que non?
Clo-Clo?
Ouais, Clo-Clo, ouais.
Clo-Clo.
C'est ça. C'est bien lui, Clo-Clo, Clovis.
Il est mort dans sa baignoire.
Ah, je...
Ouais, voilà.
Moi, je connais un autre Clo-Clo, oui, c'est pour ça.
Et donc, l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se déroule en 486, après la prise de Soissons. Donc, on dit bien Soissons et pas Soissons.
Soissons, eh ben, tu vois, tu sais, les cours sont loin.
Oui,
hein. L'école
c'est
primaire,
voilà,
c'est
tout l'intérêt de cette chronique. Donc, la prise de Soissons, qui se situe dans les Hauts-de-France, par donc notre cher Clovis Ier, roi des Francs. C'est donc l'histoire du vase le plus connu de France, l'histoire du vase de Soissons. Le vase de Soissons est un objet donc religieux qui a été restitué par Clovis à un évêque chrétien qui lui en avait fait la demande. Et en fait, ce vase, il faisait partie du butin amassé donc en 486 après la chute de l'empereur romain Syagrius. Et cette restitution n'allait pas en fait de soi à l'époque, puisque dans la tradition des
n'allait
Francs...
N'allait pas de Soissons.
Voilà, exactement. Merci.
Désolé.
Et donc ça n'allait pas de soi à l'époque, puisque dans la tradition des Francs, les richesses amassées, en fait, elles devaient être partagées à parts égales entre les guerriers. Et c'est le sort qui doit décider de ce qui revient à chacun. Donc cet épisode, que je vais en fait vous raconter un petit peu plus précisément, nous est rapporté au cours de la deuxième moitié du VIe siècle par Grégoire de Tours, soit près d'un siècle après les faits. Et en voici la traduction
un
du texte
à Tours.
Original.
À Tours pour un pot? Est-ce que c'est une coïncidence?
Je ne crois pas.
Je ne crois pas.
Ça va être en latin?
Non, j'ai fait la traduction moi.
Ah, merci Pauline.
Dans ce temps, l'armée de Clovis pilla un grand nombre d'églises parce que ce prince était encore plongé dans un culte idolâtre. Des soldats avaient enlevé d'une église un vase d'une grande valeur et d'une beauté étonnante, ainsi que le reste des ornements du Saint-Ministère. L'évêque de cette église envoya vers lui des messagers pour lui demander que, s'il ne pouvait obtenir de recouvrer les autres vases, on lui rendît au moins celui-là. Le vase de Soissons, vous l'aurez compris.
Le pot de Soissons.
Le roi, ayant entendu ces paroles, dit au messager « Suis-moi jusqu'à Soissons, parce que c'est là qu'on partagera tout le butin. Et lorsque le sort m'aura donné ce vase, je ferai ce que demande le pontife. » Étant arrivé à Soissons, on mit au milieu de la place tout le butin, et le roi, Clovis, dit « Je vous prie, mes braves guerriers, de vouloir bien m'accorder, outre ma part, ce vase que voici, en montrant le vase dont nous avons parlé ci-dessus. »
Il s'appelait déjà les vases de Soissons.
Qui s'appelait. Qui s'appelait le vase tout court. Les plus sages répondirent aux paroles du roi. Glorieux roi, tout ce que nous voyons est à toi. Nous-mêmes, nous sommes soumis à ton pouvoir. Fais donc ce qui te plaît, car personne ne peut résister à ta puissance. Lorsqu'ils eurent ainsi parlé, un guerrier présomptueux, jaloux et emporté, éleva sa francisque, donc sa petite hache là, et en frappa le vase en s'écriant. Tu ne recevras de tout ceci rien que ce que te donnera vraiment le sort. À ces mots, tous restèrent stupéfaits. Le roi cacha le ressentiment de cet outrage sous un air de patience. Il rendit au messager de l'évêque le vase, donc qui était un petit peu cabossé, qui lui était échu, gardant au fond du cœur une secrète colère. Un an s'étant écoulé, Clovis ordonna à tous ses guerriers de venir au champ de Mars revêtus de leurs armes pour faire voir si elles étaient brillantes et en bon état. Tandis qu'il examinait tous les soldats en passant devant eux, il arriva auprès de celui qui avait frappé le vase un an plus tôt et lui dit « Personne n'a des armes aussi mal tenues que les tiennes, car ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont en bon état. » Et lui arrachant sa hache, il la jeta à terre. Le soldat s'étant baissé un peu pour la ramasser, le roi Clovis, levant sa francisque, la lui abattit sur la tête en lui disant « Si king quid tu sextonas in urceo illo fecisti »
Notre traducteur
ainsi
s'est cassé.
« As-tu fait au vase à Soissons ?» Ou plus communément, comme on peut le lire dans tous les manuels d'histoire, « Souviens-toi du vase de Soissons. »
Alors, elle se souvient pas de moi, la pintade ? Juin 41, l'opéra. Ah 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 souviens-toi du vase de Soissons? Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage.
Voilà, ça soulage. Alors, cette histoire vraie, elle a une forte portée symbolique qui explique aussi son importance dans la mémoire collective. On voit que Clovis s'éloigne de la tradition des guerriers francs pour instaurer son pouvoir par une violence qui montre qu'on ne bafoue pas son autorité impunément, même quand on a l'illusion de l'avoir fait.
Ni l'art des potiers.
Ni l'art des potiers, effectivement.
C'est ça qui est vraiment important, finalement.
Oui, voilà, c'est le vase qui compte dans cette histoire. Et donc cet épisode de l'histoire m'a fait aussi penser à un autre épisode de l'histoire de l'art. Donc là, il faut avancer un petit peu dans la chronologie, puisque ma deuxième histoire, elle se déroule en 1995 et concerne l'artiste chinois Ai Weiwei. Weiwei ? Non, Weiwei, c'est le téléphone portable.
Oui.
Ai Weiwei, je crois qu'on prononce comme ça, qui est une grande figure de l'opposition au pouvoir et un emblème de la liberté d'expression en Chine. Il a réalisé donc en 1995 une sorte de happening intitulé Dropping Han Dynasty Urn, qu'on pourrait traduire par faire tomber un vase de la dynastie des Han. Et ce happening est immortalisé en fait par un triptyque photo que vous connaissez peut-être, où on voit l'artiste qui tient le vase dans la première photo, qui le laisse tomber dans la deuxième photo, et sur la troisième photo, on voit l'artiste avec le vase complètement écrasé au sol. Et donc ce geste, en fait, il est très fort, puisqu'en lâchant au sol un vase vieux de 2 millénaires, donc en fait le vase il était encore plus vieux que le vase de Soissons, issu d'une prestigieuse dynastie de l'histoire chinoise, en fait l'artiste fait passer le message qu'il se libère de son passé, qui pourrait être une entrave à sa créativité et à sa farouche indépendance. Bon, certains crient au génie, d'autres crient au vandalisme, et on peut comprendre. Quoi qu'il en soit, c'est l'œuvre en fait qui l'a fait connaître mondialement. Et pour la petite anecdote, près de 20 ans après ce happening, en 2014, Ai Weiwei prépare une expo à Miami dans laquelle en fait il a repeint 16 urnes chinoises qu'il a placées devant ce triptyque photo. Et en fait, lors de l'inauguration, il y a un autre artiste, Maximo Caminero, qui a saisi un de ses vases colorés et qui a reproduit exactement le même geste. Donc, il a brisé le vase au sol devant la photo.
Putain, voilà. C'est un cycle sans fin.
C'est un cycle sans fin.
Mise en abîme.
D'un coup, il y a quelqu'un qui va prendre un de ses pots et qui va lâcher devant elle. Elle ne va pas comprendre ce qui se passe.
Et en fait, ça a été filmé. Donc, enfin, voilà, tout un processus. En fait, cet artiste-là, il a dit avoir été provoqué par les photographies d'Ai Weiwei et il a expliqué avoir voulu l'imiter dans un acte de protestation spontanée commis au nom de tous les artistes locaux de Miami qui ne sont jamais exposés dans les musées de la ville. Donc c'est pas passé cette fois auprès des autorités, puisqu'en fait cet artiste-là, le deuxième, hein, Maximo Caminero, il a été condamné à 18 mois de prison et à 100 heures de travaux d'intérêt général. Donc c'est vraiment pas de bol. Voilà. Bon, non, j'ai pas vraiment de
pas de peau. Oh, c'est quand même dommage de passer à côté, quoi.
Ouais.
Vraiment. Quelle honte.
Ouais, bah voilà, je n'ai pas votre réactivité là-dessus, je suis désolée. Donc j'ai pas non plus de pied à ma chronique, en fait, mais on peut essayer de faire un happening, nous aussi, avec nos petits pots, si ça vous dit.
Non, ça va.
Non.
On les adore. On a passé tellement de temps dessus.
Bah, sauf s'il y a un pot de quelqu'un qui est pas là. Eve, tant pis.
Et voilà, tu l'as cassé.
Merci, Pauline. Moi aussi, je vais vous parler d'histoire, mais cette fois, je vais prendre un petit peu une vibe Jeanne dans mon histoire.
Oula !
Ouais, c'est une idée qui m'est venue pendant que je pétrissais l'argile, et je sais, on y a tous pensé pendant cette activité, quand on faisait monter cette tour sans fin entre nos doigts glissants, tour qui penchait légèrement d'un côté, nous nous disions à nous-mêmes, ça ressemble quand même beaucoup à un phallus, non ?
Tu es une personne absolument, parfaitement obsédée.
De quoi sert cette oblongue capsule ?
Ah, elle fait carrément vrai. Où est-ce que vous l'avez eu ?
Sexe masculin, donc. Sexe masculin.
C'est le sexe à l'état pur.
On va se faire un petit coup de god, ceinture.
Un god et jamais, jamais votre god.
C'est bite, en réalité. Moi, j'ai pas pensé à phallus, j'ai pensé à bite.
Mais c'est parce que tu es vulgaire, Jeanne.
Non. Qui a pensé à phallus ici ? Ah, personne ne lève la main. Excusez-moi.
C'est parce que tu ne connais pas le sens de ce mot. C'est un. Bon, en tout cas, prude que vous êtes, peut-être que vous n'admettrez pas tous, mais je sais que vous y avez pensé, en tout cas moi j'y ai pensé. Et de fil en aiguille, je me suis dit, imagine, tu es une potière délaissée ou un potier un peu curieux à Uruk en Mésopotamie en 3500 avant Jésus-Christ, et là tu commences à faire ton vase et subitement c'est l'illumination, avec un peu de doigté, tu prends ton tour de potier, parce que le tour de potier ça a quand même 3500 avant Jésus-Christ et ça allait déjà à 100 tours minute. Donc tu prends ton tour de potier, tu pétris un monstrueux pénis et bim, tu le mets au four et sans savoir, tu viens de créer le premier godemiché de l'histoire. C'est incroyable, non ? Eh bien il faut savoir qu'en archéologie, l'histoire du Godemiché, c'est relativement récent. Non pas parce que ça n'existait pas, mais parce que l'archéologie a été un champ de recherche longtemps réservé aux hommes et que les hommes, étant ce qu'ils sont, l'idée que les femmes aient pu se débrouiller sans eux leur passait bien au-dessus de la tête. Sauf que ces fameuses femmes, ou hommes avec des envies d'exploration, hein, qui sait, à votre avis, elles ont commencé à utiliser des Godemiché vers quelle période ?
Alors, tu dis que le tour, c'est quoi ? C'est 3000,
moins 3500.
Et bah,
Eh ben non, en fait, les archéologues, ils estiment que le Godemiché, il existait déjà probablement depuis le paléolithique. On a retrouvé des représentations de pénis suffisamment réalistes pour être facilement reconnaissables, donc taillés dans la pierre, et qui datent de plus de 28 000 ans. La question insoluble...
Non, le mec, il nous l'a fait à l'envers, quoi. Tu sais, on dit, il date de 23 000 ans, à votre avis
mais parce qu'en fait, ceux-là, ils sont en argile, mais avant, il y en avait des taillés dans la pierre. Mais c'est la subtilité.
On aurait dû y pencher. Dans le bois,
les épines.
Oui, il faut t'intéresser à... Les échardes, c'est quand même un peu désagréable. Et donc, la question insoluble, finalement, c'est de savoir si ce joli caillou, il était utilisé ou non à des fins sexuelles. Connaissant l'être humain et son besoin de découverte et son inextinguible envie de ne laisser nul trou inexploré, j'ai envie de dire que oui, évidemment,
oui, c'est
on l'a utilisé pour ça. Quelle question,
c'est
on,
beau,
le sait,
Pierre.
On le sait. Donc malheureusement, pour notre potier habitant à Roux en Mésopotamie, il n'a rien inventé. En matière de cul, l'homme préhistorique était passé avant lui. Pardon. En le relisant, j'ai fait « Ah merde !» Le fait est qu'à travers les âges, on retrouve de nombreuses représentations de phallus érigé à la gloire de tel ou tel dieu, et que c'est... J'ai cru que je viens de rigoler et ça m'a fait rire de loin.
Mais... Non, mais j'y pensais parce que, en fait, j'en ai déjà vu, effectivement, en ivoire. En fait,
bah
effectivement,
oui.
C'était bien avant.
C'est bien plus tardif, Philippe. Ah, quoique, je suis pas sûr.
Donc, ça s'appelle une défense d'éléphant, je crois.
Non, mais je vous montrerai les photos après des phallus en pierre, si ça vous intéresse.
Bah, tout à fait, ça s'appelle une pointe de flèche, Pierre.
Oui, bah alors je ne sais pas quel Godemiché tu utilises, mais ça m'inquiète un peu.
Ouais.
Donc, il y avait plein de représentations à la gloire de tel ou tel dieu, et évidemment, ces dernières représentations, elles n'étaient sans doute pas que décoratives. Comme le raconte l'historienne des arts Marielle Brie dans un article sobrement intitulé « Histoire du Godemiché », et que je vous invite à lire parce qu'il est passionnant, dans sa pièce intitulée « Lysistrata, le poète grec Aristophane raconte comment au 5e siècle avant Jésus-Christ, des femmes se retrouvent privées, à cause de la guerre, de mari, d'amant, mais surtout de Godemiché. Car les artisans de faux phallus de l'ancienne cité grecque de Milet ont quitté l'alliance d'Athènes et c'est la pénurie. Encore une terrible conséquence de la guerre, mais c'est aussi la preuve que déjà à l'époque, l'industrie du sexe était florissante finalement. Pour vous dire l'inventivité en la matière, à l'époque, la légende raconte même que ce serait Cléopâtre qui a inventé le premier vibromasseur, la coquine, aurait empli un cornet en papyrus d'abeilles bourdonnantes pour profiter de leurs douces vibrations. C'est évidemment une légende urbaine et sans
dire, ça...
complètement faux parce
les
que...
fausses anecdotes d'Hollywood.
C'est sans doute complètement faux parce que personne de sensé, à moins d'être profondément masochiste, ne mettrait en contact des abeilles furieuses avec ses parties génitales. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Un accident est vite arrivé. Ce que nous apprend également Marielle Brie, c'est que dès l'Antiquité, le Godemiché est mal perçu. On moque déjà les femmes qui l'utilisent car le vilain utérus de la femme la destine à toutes sortes de conduites impropres et il est donc urgent qu'elle fasse des gosses et qu'elle reste à la maison déjà à l'époque. Et surtout, il convient de ne pas trop solliciter l'utérus, un organe doué de volonté propre, allez-en croire, sans quoi les femmes deviennent des catins rôdant dans les rues, avides d'assouvir leur insatiable besoin de sexe. C'est d'ailleurs à ce moment qu'apparaît le mot hystérie, qui est dérivé du mot utérus. Et c'est d'autant plus dommage que le mot Godemiché, il vient aussi du latin. Lui, il vient de Godemii, qui signifie « réjouis-moi ». Voilà.
Ah, génial, je ne savais pas du tout. Excellent.
On aura au moins appris quelque chose.
Seulement une. Je suis en train de faire un cours sur le Godemiché, Mickaël. Reste que le Godemiché devient dès lors, malheureusement, un objet...
Il y avait déjà la chronique de Jeff sur le bâton à travers les âges.
Oui, mais c'est ça qu'on reconnaît les... Tu sais, on se croise comme ça. Le Godemiché devient donc forcément un objet secret et un peu honteux qu'il convient de cacher. Et l'idée que le sexe est mal, ça va malheureusement perdurer au cours du Moyen-Âge, comme on le sait grâce à l'Église catholique. Mais paradoxalement, si la masturbation s'est considérée comme un vice pour les hommes, c'est toléré pour les femmes. Non pas par charité chrétienne, hein, genre, allez-y, faites-vous plaisir, mais parce que, comme Ève, dans la Bible, cette traînée, elle était incapable de résister à ses pulsions, et les femmes, pareil. Donc, mieux vaut qu'elles se titillent le haricot pour garantir qu'elles ne cèdent à leurs envies et que des bâtards issus d'un mauvais lignage ne se mettent à pulluler. Masturbe-toi, tu ne tromperas point, en somme. Le godbichet n'en reste pas moins un objet secret, si bien qu'on trouve peu de mentions en fait, dans les textes au Moyen-Âge, tout juste sait-on que les femmes utilisaient des objets en bois ou des légumes. Il faut attendre le 15e siècle pour que le godbichet ne devienne un objet à nouveau à la mode, et même un objet de luxe, en fait, puisqu'il est importé pour les plus riches depuis l'Europe de l'Ouest. Alors là, évidemment, le cul, c'est devenu un plaisir bourgeois, et chacun y va de son phallus en bois, en ivoire ou en cuir. D'objet honteux, le godbichet est devenu un objet raffiné, à laquelle le poète Charles de Sigon rend même hommage dans un poème au XVIIe siècle intitulé « Godmichi ».
C'est trop mignon, je
vous lis un petit extrait de ce poème. « Une autre fois, il faut choisir le temps, le lieu et le plaisir de vous caresser à votre aise, usant de ces bâtons polis dont l'on rehausse les gros plis et les bouillons de votre fraise. Ceux de velours ne coulent pas, ceux de satin deviennent gras et sont rudes à la couture. Ceux de verre, par un malheur, s'ils se cassaient en la chaleur, vous pourrez gâter la nature. » Donc, à l'époque, beauté de la poésie, hein, on met le godmichet à l'honneur, mais on déconseille celui en verre, on ne sait jamais. Bon, le godmichet fait sa petite vie à partir de la révolution industrielle, il est réinventé. Hein, Marielle Brie raconte même que c'est en Angleterre le 5e objet à être électrifié, après la bouilloire, mais avant le fer à repasser. Donc, les priorités sont ce qu'elles sont. Le godmichet n'est plus, vive le vibromasseur, que les médecins prescrivent aux femmes jugées hystériques. Évidemment, ils pratiquent eux-mêmes le fameux massage vulvaire qui se conclut par un paroxysme hystérique, parce qu'on appelle communément un orgasme. Sauf que, évidemment, pour l'anecdote, les médecins pratiquent d'abord eux-mêmes le massage, avant de se dire que bah, c'est un peu relou, en fait, quand t'as pas envie de masturber quelqu'un. Donc, c'est délégué aux sages-femmes et ça finit par être délégué aux patientes elles-mêmes. Donc, je sais pas si à l'époque, t'as intérêt à aller voir le médecin en disant « Je suis hystérique, faites quelque chose, monsieur !» Je pense que soit tu tombes bien, soit c'est le papy dont t'as pas trop envie qui commence à te masturber. T'as une chance sur deux, faut être prudente. Pas sûr que papy médecin armé d'un godmichet tout droit issu d'un cauchemar steampunk vous plonge au comble de l'excitation. Quoi qu'il en soit, un temps sorti de l'ornière, en fait, le godmichet est à nouveau associé ensuite à la pornographie, donc il retombe en disgrâce, et puis à la révolution sexuelle. Par contre, là, c'est la libération, il y a des godmichets dans tous les tiroirs des tables de nuit. Liberté, godmichet, c'est parfait.
Un vrai pervers.
Très approprié, celui-là. Bon, ma Mickaël, j'espère que pour rester dans la vibe, tu nous as mis la musique de Ghost.
Ben non, on l'a déjà entendu en intro. Oui, je vais pas la mettre à toutes les sauces.
C'était si court.
Oui, bah, c'est, on sait jamais, peut-être à la fin. Non, pour rester dans le thème, j'ai tapé poterie dans Google. Et j'ai trouvé un morceau et un album qui s'appelle Pottery Mill. Alors, je sais pas dans la prononciation.
C'est quoi, mine?
C'est la.
Non.
Ou l'usine, ouais, ou ça.
Oui. Là,
ouais. Enfin, bon. D'un projet qui s'appelle. Un groupe qui s'appelle Pregnant.
Mm-hmm.
Je trouve ça marrant, d'ailleurs, comme nom de groupe. C'est le projet.
Ouais, parce que quand ils arrivent sur scène, ils disent We are pregnant! Yeah.
Exactement.
C'est probablement juste pour la vanne qu'ils se sont appelés comme ça, d'ailleurs.
C'est le projet électronique pop avant-gardiste du Californien Daniel Trudeau. Mmh. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec Justin. Ouais. Et donc, c'est vraiment hyper cool. C'est un petit mélange de samples, de pads de batterie, de pédales d'effet, de boucles, de guitare, de synthé, etc. Et moi, personnellement, ça m'a fait vraiment beaucoup pensé à un autre groupe américain que j'adore qui s'appelle Animal Collective. Mmh. Et voilà, c'est tout. Donc l'album est sorti en 2013 sur le label Mush Records. Et je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Thank you.
Merci en tout cas, Mickaël, pour ce chouette morceau.
Ben, merci.
Ouais,
comme, quoi, comme quoi, ça vaut
le coup de taper poitrine en Google. Exactement.
On a toujours des bonnes surprises inattendues.
Moi, j'adore mon boulot.
Je tape des mots au pif et je tombe sur des trucs bien. C'est vraiment génial. Et Jeanne ?
Ouais.
Jeanne, toi, tous ces pots, ça t'a fait vriller. Tu contemplais les pots que t'étais en train de façonner. T'étais qui suis-je ? Où vais-je ? Que dois-je pétrir ? t'es en plein doute, n'est-ce pas ?
J'ai un doute.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadoudadoudou.
Oui, oui, effectivement, j'ai eu un doute.
Et oui, Pierre.
Oui, oui, voilà, j'ai eu un doute. Et j'ai eu un doute avant même de pétrir sur le tour. Parce que, en fait, j'ai eu envie de parler d'un moment un peu particulier de l'atelier où on nous a demandé de pétrir la terre pour éviter qu'il n'y ait de bulles d'air et que ça fasse péter nos belles œuvres d'art à la phase cuisson. Alors, bien sûr, le vocabulaire est parfaitement adéquat et n'en déplaise aux amateurs de jeux de mots, je ne vais pas ici faire de métaphores filées autour des peines ni de chroniques sur les bienfaits de nos flatulences sur la santé, ce qui pourrait être d'ailleurs un très beau sujet pour une prochaine émission. Je pourrais par exemple vous parler des paix et vous apprendre qu'un paix silencieux se dit une veste, mais ce n'est pas le sujet que j'ai choisi. Et c'est incroyable comme les mots sortent de ma bouche et ça fait déjà une minute et je vous ai toujours pas dit ce dont je voulais vous parler. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on nous a dit, donc Pauline nous a dit qu'il fallait former avec la terre une tête de bélier.
Et nous, j'avais oublié
oui,
effectivement la tête
et nous,
de bélier.
On a compris, vous vous souvenez ce qu'on a compris
oui. Une tête de beignet.
On a dit, alors moi, on a cru que c'était une tête de beignet.
Moi j'avais compris bélier, mais j'y arrivais pas quand même.
Moi j'avais compris tête de beignet, ça n'avait aucun sens.
Donc, ça n'avait aucun sens. Pendant une minute, c'était un peu étrange. On voyait pas du tout le beignet dans le truc qu'on était censé façonner, quoi.
Ni le bélier d'ailleurs.
Si le bélier, on... Bon, bref, on y reviendra.
Il ne faut pas être trop regardant, quoi.
Et ce truc-là, de mal comprendre ce qui a été dit, ça fait partie des illusions auditives. Hein. Ça a donné lieu à toutes sortes de bonnes blagues, d'histoires pour enfants et de chansons qu'on n'arrive plus à entendre pour ce qu'elles disent vraiment. Comme celle de Scorpion, où l'on se met à ne plus entendre que « Ce soir, j'ai les pieds qui puent », par exemple.
Ce soir, j'ai les pieds qui puent.
Voilà, donc du coup, la tête de beignet. Absurdité totale, peut-être, mais manifestement pas dans l'esprit de tout le monde, puisqu'un journaliste et photographe japonais a lancé dans les années 2010 la mode du donut face ou bagel head, qui consiste à injecter dans le front d'une victime consentante un liquide salin qui fait enfler le front, puis il exerce une pression au milieu pour créer la forme d'un beignet. Cet effet...
C'est, bon, alors, c'est pas du tout visuel, mais la tête de Léo, quoi, genre, qui fait nom de la tête.
C'est vraiment... totale.
Non, c'est
quoi.
Pas possible.
Je souhaite quitter ce monde.
J'ai déjà vu une photo de...
Moi aussi, j'ai déjà vu. Ouais.
C'est incroyable.
Je crois que c'est... Il y a Orlan qui a fait ça.
Il y en a pas mal qui sont des cordes aussi, de la même façon. Une plasticienne française, notamment, qui...
C'est incroyable tout ce qui se passe dans ce monde. Cet effet ne dure donc malheureusement que 16 heures, où vous avez l'air absolument et délicieusement stupide. Cherchez ça sur Internet, hein, c'est vraiment sympa. Le mec s'appelle Ryoshi Keropi Maeda, et c'est une des stars du ModCon. Le ModCon, c'est une sorte de festival des modifications extrêmes corporelles. Et devinez le deuxième endroit que les gens se font le plus enfler grâce à cette technique révolutionnaire.
Alors, sachant que c'est Jeanne qui fait une chronique.
Et qu'on a parlé de Fallu, hein, il y a
exactement, près, exactement. Vous avez eu un indice pour vous à la maison. C'est effectivement le scrotum, ou pour vulgariser, la peau des couilles. Excellent, non ? Ouais. C'est quand même super, vous avez des images. Si vous aussi, non. À la maison...
Parce qu'après, les gens, ils appuient dessus pour faire un petit trou aussi.
Poup ! Si vous aussi, à la maison, vous avez tenté, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous sur les réseaux sociaux.
Mais pas les photos.
Hashtag sortie de secours. Quand j'y repense...
Hashtag scrotum.
Scrotum beignet.
Donut scrotum. Quand j'y repense, je me dis que c'est tout de même une étrange coïncidence que l'on ait tous entendu « beignet » à la place de « bélier ». J'ai du mal à lâcher l'affaire, mais si ça se trouve, c'était même pas une tête de bélier que Pauline a dit, mais tête de mêlier, parce qu'elle était un peu enrhumée ce jour-là, par exemple. Oui, oui, le
je
mêlier.
Je parle du nez quand même très, très couramment.
Vous connaissez le mêlier ?
Mêlier ? Mêlier ? Mêlier ? Non.
Benjamin, c'est l'autre nom du nez flié, bien sûr. Mais du coup, ça ne fait pas sens. À moins qu'on prenne deux nèfles et qu'on dessine une bouche, alors là, ça ferait une tête de Mélier. Mais là encore, quel est le rapport avec la poterie? Et puis, si ça se trouve, Pauline n'a pas dit tête de beignet, mais fête des beignets. Une sorte d'injonction dictatoriale à cuisiner des choses sucrées et grasses parce que le gras, c'est la vie. Plus le temps passe et moins je me souviens, mais il me semble bien maintenant qu'il ne s'agissait en réalité pas du tout d'une tête de bélier. Oui, 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 maintenant, il m'apparaît comme quasiment sûr qu'elle nous a proposé de faire la fête du bélier, aussi appelée Aïd el-Kébir. Cette fête qui commémore le sacrifice par Abraham d'un bélier dont Dieu aurait décidé qu'il compenserait le sacrifice qu'Abraham projetait de faire de son fils. Ah oui, ah, si nous avions bien compris, à ce moment-là, nous nous serions lancés dans une toute autre aventure. Ah mais non, puisque la fête du bélier est prévue cette année pour le 20 juillet, date qui appartient encore au futur à l'heure où nous enregistrons cette émission. Peut-être donc que Pauline nous a envoyé un message subliminal pour nous proposer que la prochaine sortie de secours soit en fait une fête dont le bélier serait l'excuse, le mélier, le lieu de rendez-vous et le beignet, la conséquence gourmande de cet heureux événement.
Mais encore ?
Oui, oui, docteur, je sens que je déconne là, je suis partie un peu dans tous les sens, non ? Docteur ?
Oui, je crois que c'est l'hystérie. Ah, pardon.
Oui, oui. Bah, alors oui, vous faites bien d'en parler. Je vais probablement vous prescrire deux, trois choses ensuite. Mais effectivement, chère madame, il me semble que vous avez contracté ce que l'on appelle un coup de bélier, un phénomène de suppression apparaissant lors d'une variation brusque de vitesse de liquide à la suite d'une ouverture rapide de vanne.
Ah, merci, docteur.
Mais je vous en prie, vous n'oublierez pas de payer les 150 euros à Liliane quand vous quitterez la séance.
Oui, d'accord, docteur.
D'accord.
On se revoit dans deux semaines, c'est ça, docteur ?
Dans deux semaines. Surtout, vous n'oubliez pas le rendez-vous, hein, c'est important.
Non, d'accord, docteur, je serai là.
Voilà.
Il faut l'excuser parce qu'il n'est pas très normal. Il fait une petite crise de temps en temps, mais ça passe très vite.
Oui, il est pas méchant.
Bon, c'est quoi la séance suivante ? Bon, bah, Jeff a annulé. Zoé, bah, annulé aussi. Bah, il reste Léo. Léo.
À qui le tour ?
Hé, hey, qu'est-ce que tu veux ? Tu n'es pas rouge dans le métier de victime. Ce serait trop facile.
Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos.
C'est vraiment trop injuste.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Léo.
Bonjour Léo.
Bonjour Léo.
Bon bah voilà, moi ça fait quelques années maintenant que je suis victime d'harcèlement. Oui, ça y est, je décide finalement d'en parler. Les auditeurs les plus fidèles d'entre vous le savent sans doute déjà, un sang à moitié germanique coule dans mes veines, petit détail qui ne cesse d'inspirer la dérision de mes amis, soi-disant. Vous le savez aussi peut-être, mais on aime bien me rappeler le fait que je suis un peu roux et que par conséquent, je n'ai pas d'âme. Et vous le savez sans doute, vous l'avez sans doute remarqué, je fais parfois des anglicismes bizarres et des phrases cheloues, voilà, au plus grand plaisir de mes collègues. Que l'on ne soit pas surpris d'apprendre que Calimero est un peu mon esprit animal dans ce podcast. Mais ce soir-là, le soir de la poterie, c'était la goutte de trop. Vous qui buviez votre bière volée, parce que je précise, on n'en a pas parlé.
Oui, c'est vrai. Hein, quel
voilà, vous je étiez en train de déguster ce nectar ambré, en plus en vous réjouissant du fait que bah, par un petit miracle concours de circonstances, vous êtes parti sans payer.
On a essayé, on n'a pas pu.
C'est vrai. Mais bon... Vous qui buviez votre bière volée tout en disant « Non mais bon, parce que toi, allemand, hein, bon, voilà, tu sais ce que je vais dire. Hein. » Même ma femme s'y mettait gaiement, emportée par son mouvement de masse. Puis arrive le moment de commencer la soirée, la raison pour laquelle nous étions tous venus, la raison pour laquelle nous avions tous payé, le stage découverte de la poterie.
Oui, parce que j'ai fait payer mes amis.
Je me faisais une...
Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais...
Je me faisais une joie à l'idée d'essayer finalement, et là, le verdict tombe. Ah, il y a pas assez de tours pour tout le monde ? Pas de souci, Léo fera de la pâte à modeler à côté en nous regardant. il ne dira rien, il est gentil. Par contre, il a bien payé. Hein. Oui, non, non, mais bon, on les connaît finalement. Non. Ah, pauvre Calimero, je connais bien ta douleur.
Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
Bah oui, t'as raison, c'est vraiment trop injuste. Hashtag je suis Calimero, je suis votre poussin noir.
Arrêtez avec les hashtags, c'est vraiment années 2000 les hashtags.
On est vieux.
Ça oui, on est vieux. Je suis votre monstre, vous êtes mes Frankenstein. Parce que oui, attention, c'est bien le scientifique qui s'appelle Frankenstein et pas le monstre. Hein. Ça va là. Du coup, j'ai regardé sur l'internet pour voir si j'étais un peu le seul à me sentir proche de ce pauvre petit Calimero. Et sans surprise, il y a carrément un syndrome de Calimero. Donc bon, pour faire simple...
Avec tellement de choses. Ouais,
c'est juste un nom donné aux personnes qui se plaignent de la moindre chose. Je consulte donc le site Doctissimo et le premier post m'indique bien évidemment comme d'habitude, que je vais mourir. C'est toujours comme ça sur ce site, hein, peu importe la maladie, j'ai éternué, est-ce grave? Oui, il est possible que ce soit une maladie rare du Vietnam qui vous tue après un seul éternuement, ou alors c'est un rhume. Mais les deux sont tout aussi possibles. Mais ensuite, je tombe sur une liste de conseils. Je m'attelle donc à la lecture de ces conseils vraisemblablement sérieux afin de me guérir. Numéro 1. Accepter de se voir tel que l'on est. Ah ouais, direct, le premier conseil, c'est d'être bien dans ses pompes, le truc qui prend d'habitude, genre 4 ans de thérapie, je sais pas, toi, il te le faut maintenant. Donc c'est ma partie, voilà. Deuxième point, chercher l'origine du problème. Bah, c'est facile, ils sont autour de cette table. Point numéro 3, passer à autre chose. En gros, ferme ta gueule. Et point numéro 4, continue à dire ce qui ne va pas.
Alors,
c'est un peu plus ou moins exactement l'inverse du point précédent, non? Attends, il y a une précision. Continuez à dire ce qui ne va pas à un thérapeute spécialisé. Ok, donc va plutôt parler à quelqu'un qui est payé pour ne pas te dire de la fermer. Mais en cherchant un peu, je me suis rendu compte que le petit Calimero avait vraiment raison de se plaindre, car son histoire est un peu plus dark que l'on imagine. Il fait ses débuts, en fait, dans une émission télé italienne en 1963, Carosello. Et on voit un petit poussin noir avec sa coquille sur la tête, mais sa maman le rejette, car il est noir. Oui, il est mal aimé parce qu'il est noir. Mais voilà que l'on découvre une bonne nouvelle. Il n'est pas noir, il est juste sale, après être tombé dans de la boue. Hop, un petit coup de lessive de la société Mira. Ouais, voilà.
D'accord.
Il est juste... donc un petit coup de lessive de la société Mira Lanza, et le tour est joué, il est propre, il est blanc, et tout va mieux dans la vie. Ah. Alors une fois que j'avais digéré le petit choc un peu raciste, voilà, je me suis dit en fait qu'il avait quand même bien de la chance, le petit Calimero, parce que les gens l'aimaient bien quand il se lavait. Moi, la rousseur, ça partira jamais.
Oh là là là, c'est vraiment trop injuste.
Mais ouais, mon gars, qui le dis-tu?
Pauvre créature.
On est désolé, Léo. Il faut qu'on arrête de faire des blagues.
Oui.
On ne mettra plus de bâton dans les roues.
Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais préparé... En fait, j'avais un autre son préparé depuis des lustres pour te mettre un jour où tu te plaignais. Je crois que je ne l'ai jamais mis dans un...
Ah bah, il est
alors
temps.
Ça, c'est injuste. Ça. C'est vraiment trop injuste.
Oh, incroyable.
Donc, quand il m'a demandé de mettre ça, j'ai fait... Putain, il m'a niqué mon effet, quoi.
C'est très drôle.
Bon.
Désolé.
Eh bien, est-ce que t'as envie de conclure sur quelque chose, Pierre?
Bah non, parce que généralement c'est Mickaël qui conclut sur une musique.
Bah oui,
c'est ça.
Vrai.
Exactement.
C'est pas moi. Pour
moi.
On
encore
a tout
moi.
Oublié.
Et voilà, j'ai encore tapé poterie dans Google.
Page 2.
Et alors là, j'ai trouvé un truc. J'ai absolument aucune info là-dessus. Donc ça va aller très très vite. C'est juste un truc qui s'appelle Pottery. Voilà. Par un mec qui s'appelle Lee Gunn. Voilà, et je vous propose juste de nous quitter avec ça, moi ça m'a fait bien rien. Et puis on vous dit à dans un mois, mm-hmm. Quand même avant. Hein,
on ouais. Sait pas sur quoi, mais dans un
mois. On verra bien.
Mais c'est surprise. Bisous, allez, bisous.
Allez, ciao. Salut. Oh,